Bienvenue à Scal 1718, Fulgence Blanc au micro et Maurice Bolduc à la technique. Oui, en cette belle fin de journée. Oui, il fait beau, il y a du soleil, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de neige non plus. Voilà, en première partie d'émission, après mon petit blablabla. C'est Louise Thibault, la docteure en nutrition, qui va nous parler de nutrition, bien sûr. Manger certains gras, c'est bon pour le cerveau. Voilà, comme tant chez les tout petits que chez les grands aussi, bien sûr. Elle va donner tous les détails. En deuxième partie d'émission, je vais recevoir Raymond Villeneuve, qui est le directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité RVQ. C'est sur le concernant la diffusion de sondages dans le cadre de la 10e semaine québécoise de la paternité SQP. Voilà, c'est ce qui s'est déroulé d'ailleurs du 13 au 9 juin de 2022. Et puis bon, hier c'était la fête des pères. Bon, ben, on va faire d'une pierre deux coups en même temps. Et cet organisme qui recoupe plus d'une centaine d'organismes aussi qui s'occupent des pères en difficulté. Tous les détails un peu plus tard en deuxième partie d'émission. Bonjour Louise Thibault.
Bonjour Fulgence Blas.
Ah oui, ouais, de toute façon j'ai des neveux, j'ai des nièces, j'ai bon, tout ça, donc je peux me dire papa aussi, attention. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui?
Je vous parle de gras.
Ces gras alimentaires qui sont essentiels pour le cerveau, tant chez les petits que chez les grands. Alors,
C'est les petits, oui.
Mais on dit que c'est pas beau, souvent on entend que les gras, c'est pas bon pour le corps.
Ça dépend lesquels. Les,
voilà, allez, on t'écoute, Louise.
Alors, cette affirmation peut vous surprendre. Manger certains gras, c'est bon pour le cerveau.
Oui.
C'est bon pour le cerveau, mais pas pour tous les gras. Hein, il faut manger les bons gras.
Oui.
Alors, pourquoi manger les bons gras, c'est bon pour le cerveau? Ben, c'est parce que nos cellules cérébrales, nos petits neurones, elles sont entourées de membranes qui contiennent des substances graisseuses. Et ces substances graisseuses, ben, elles sont très, très importantes. Elles permettent la transmission de l'information dans notre cerveau. Donc, elles permettent à nos neurones de communiquer ensemble.
OK.
Et notre cerveau, il contient beaucoup, beaucoup de gras. Il contient environ 60% de gras.
Oui.
Donc, c'est très, très important.
60% de gras.
Eh oui, environ.
OK.
Et puis c'est important de maintenir ce taux de gras-là, justement, pour bien transmettre l'information. En fait, le gras, il agit comme une espèce d'isolant qui permet à l'information de bien se rendre un peu partout dans le cerveau. Mais quand je dis manger gras, manger les bons gras, je parle surtout de gras qu'on dit essentiel.
D'accord, voilà, sinon moi je vais flipper.
Alors, les gras essentiels, ben, c'est les gras qui, oui, on peut le comprendre, notre corps ne peut fabriquer.
Oui.
Hein, parce que notre corps, il peut fabriquer quand même toutes sortes de composés. Certains gras, certains acides aminés qui sont importants pour les protéines, mais il y a des gras que notre corps ne peut pas fabriquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, il faut en manger.
Il faut en manger, il faut les remplacer, voilà.
Ben, c'est ça.
Il faut les trouver quelque part dans les aliments.
En mangeant des aliments.
Oui.
Et puis, ces gras essentiels, dits essentiels, ils sont importants d'abord pour le développement de notre cerveau.
Oui.
Notre cerveau, ben, il se développe de façon très intense quand on est dans le ventre de notre maman et surtout dans les 3 derniers mois de la gestation. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est que les 3 derniers mois de la gestation, c'est le moment où la croissance de notre cerveau est à son maximum.
Ah bon?
Oui, oui. Et puis, les gras que notre maman ingère, eh bien, ils sont transmis à nous, petit fœtus, et puis ils permettent à notre cerveau de bien se développer.
Donc
il est important pour la maman de consommer de bons gras et des gras essentiels. Alors on les trouve où, ces gras essentiels-là?
Oui.
J'en ai déjà parlé dans des chroniques précédentes et j'en reparle, ce sont dans les poissons gras et dans certaines huiles végétales. Alors, il y a des huiles dans nos marchés qui proviennent des végétaux et il y a des huiles qui proviennent d'animaux, qui sont d'origine animale. Alors ici, je parle d'huile qui proviennent de végétaux, mais aussi d'huile de l'huile de poisson, c'est bien, mais pourquoi ne pas manger le poisson? Parce que le poisson, moi je trouve que c'est un très bel aliment d'été.
Oui.
Un poisson qui se cuit bien au four, mais si vous êtes en camping, vous pouvez le cuire sur votre feu de camp. Si vous aimez les barbecues, vous pouvez le cuire sur le barbecue en papier. Donc le poisson, je trouve que c'est un très bel aliment d'été. Et les poissons qui contiennent le plus de bon gras, eh bien, en tête, on retrouve le saumon.
Le fameux saumon.
Fameux saumon.
Oui.
Et, pas n'importe quel, le saumon de l'Atlantique.
Le saumon, alors il va falloir que je demande au vendeur si son saumon provient de l'Atlantique.
Ah ben oui.
S'il vient du Pacifique, il n'est pas bon?
Il est bon, mais il contient un peu moins de bon gras que le saumon de l'Atlantique.
Alors les pays situés en bordure de l'Atlantique sont gâtés, quoi. Les gens qui sont en bordure de l'Atlantique sont gâtés dans ce domaine-là.
Ah oui, ils sont gâtés. Enfin, je crois qu'ils ont de très bons cerveaux s'ils le consomment, leur fameux saumon.
Oh oui.
Alors, il y a eu un grand débat à un certain moment. Est-ce que le saumon d'élevage ou le saumon sauvage, c'est mieux?
Ouais, parce que c'est devenu une histoire d'industrie,
oui.
Voilà.
Alors écoutez, pour l'environnement, c'est une histoire, mais pour la nutrition, c'en est une toute autre histoire, à savoir que soit le saumon d'élevage ou le saumon sauvage, c'est tout aussi bon.
Oui.
Le contenu en gras ne varie pas tant que ça.
Voilà, qu'il vienne de l'Atlantique ou bien qu'il soit élevé, il y a du gras.
C'est ça, c'est ça.
D'accord.
Alors ensuite, il y a le fameux hareng. Alors les gens qui vivent dans les provinces maritimes, qui sont de bons consommateurs de hareng, mais les autres aussi, c'est un poisson à découvrir parce que ça contient beaucoup de bons gras.
Ok.
Ainsi que le saumon. Ben, le saumon, c'est bien aussi, mais le saumon, c'est bien, mais le saumon du Pacifique. Alors ça aussi, élevage ou sauvage, c'est très bien. Est-ce que tu aimes les sardines, Fulgence?
Oui, je les aime, mais j'en mange pas souvent. Je sais pas, mais j'en mange de temps en temps. Dans l'année, au moins, durant les 12 mois, au moins 3, 4, 5, 6 fois, oui. Pas plus.
C'est tout. Alors, tu devrais manger plus, parce que les sardines, c'est très, très bon.
Je les adore. Oui, mais bon. Même les saumons dans les petites boîtes.
Bah oui, le saumon en boîte, c'est bon aussi, hein.
Oui.
Ceux qui partent en camping l'été, qui partent en randonnée, qui emmènent des conserves, eh bien,
oui.
Le saumon, c'est bien.
Oui.
C'est très, très bien. Oui. Le thon en conserve, en revanche, ne contient pas assez de gras pour fournir des bons gras pour votre cerveau.
Okay.
Alors, optez pour le saumon.
Oui, il en contient moins que le saumon, quoi.
C'est ça, beaucoup, beaucoup moins.
Mmh. Ok.
Et puis, si vous êtes pêcheur, vous pourriez songer à aller pêcher la truite, parce que la truite arc-en-ciel, elle est très, très bonne côté bon gras.
La truite arc-en-ciel.
Et oui, la truite arc-en-ciel.
Où est-ce qu'on la trouve, la truite arc-en-ciel?
Ben, moi, j'en ai trouvé dans mon supermarché.
Oui.
Alors, si vous avez un poissonnier, c'est encore mieux. Mais la truite arc-en-ciel, vous pouvez en trouver facilement. Il s'agit de demander...
Oui, j'ai un poissonnier sur Beaubien bon. De Normanville, dans Rosemont-Petite-Patrie d'ailleurs.
Ah bon, alors...
Je vais lui poser la question, la truite arc-en-ciel.
S'il a ça.
Ok.
Et aussi, ce qui peut vous surprendre, c'est que le caviar, vous savez, les fameux œufs de poisson, eh bien, c'est riche en bon gras.
Bon, ça c'est une autre catégorie.
Catégorie, mais quand même, c'est très bon, c'est très
bon. Pardon, je dis ça parce que c'est pas à la portée de tout le monde, quoi, le caviar.
Ah, mais il y en a du moins cher. Il s'agit pas nécessairement d'acheter le caviar d'esturgeon à plus de 100$, la mini boîte.
Mm-hmm.
Mais vous avez des œufs de lampe qui peuvent très bien faire l'affaire.
Ah, moi, d'accord.
Alors, c'est pas besoin de payer très cher.
Ah, parce que moi, quand j'entends caviar, c'est du luxe. Voilà.
Ah, ben oui, c'est ça. Mais il y a du caviar quand même plus abordable.
Oui.
Je ne dis pas d'en manger tous les jours.
Ah mais... non. Surtout avec l'inflation qui nous frappe du front, du nez. Là. On ne peut pas se le permettre.
Je vous ai dit qu'il y a des huiles végétales qui sont bonnes.
Oui.
Alors, il y a une huile canadienne qui s'appelle l'huile de canola, qui contient beaucoup de bons gras pour le cerveau.
L'huile de canola.
canola, et c'est une huile qui est moins chère que l'huile d'olive.
L'huile d'olive que j'achète souvent d'ailleurs. Et puis il y a tellement de différentes sortes d'huile d'olive aussi.
Ah, ça aussi, il y a tout un marché de l'huile d'olive. Et c'est pas parce que l'huile d'olive va être plus chère qu'elle va être nécessairement plus nutritive. Le goût peut varier, mais côté nutrition, elles se ressemblent beaucoup, les huiles d'olive.
Voilà, et qu'on le veuille ou pas, il y a toujours du vrai et du faux.
Ben, c'est ça. Alors, l'huile de canola, l'huile de maïs, l'huile de coton, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, même l'huile de soya, sont des bonnes sources de graisses essentielles.
Waouh! Oh, génial.
Des graisses essentielles, eh bien, vous allez les consommer pour votre mémoire, entre autres. Je vous dis que c'était bon pour le cerveau, mais c'est bon pour la mémoire.
Oui.
Alors, il y a plusieurs travaux de recherche qui ont été faits sur les gras et la mémoire depuis des décennies.
Oui.
Et même moi, dans mon laboratoire à l'Université McGill, j'ai fait de ces travaux sur les gras et la mémoire chez des petits rats de laboratoire.
Qu'est-ce que ça donnait comme résultat?
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a nourri nos petits animaux de laboratoire parce qu'on s'en occupe très très bien,
oui,
avec des régimes équilibrés, mais certains de ces régimes-là contenaient des gras animaux alors que d'autres régimes contenaient des gras d'origine végétale, par exemple de l'huile d'olive.
Oui.
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'après quelques semaines ou même quelques mois, de régime, on leur a fait des tests de mémoire et d'apprentissage. Parce qu'ils sont très futés. Hein. Les petits animaux de laboratoire, ils apprennent bien et puis ils mémorisent bien.
Ok, d'accord. Donc, ça va nous permettre aussi à nous, les humains, de bien retenir, quoi. À notre cerveau, à notre mémoire, de bien sauvegarder, mémoriser, quoi. Voilà.
Si ça marche chez les petits rats, pourquoi pas chez nous?
Ah ouais.
Alors, comme résultat, ce qu'on a obtenu, c'est qu'un régime qui contient plus de gras végétal, eh bien, permettait de mieux apprendre et aussi de mieux mémoriser.
D'accord.
Et pas seulement chez les petits rats, mais j'ai des collègues qui travaillent chez les êtres humains et ils ont obtenu des résultats semblables.
Wow.
Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que quand on a fait des études sur le vieillissement du cerveau, eh bien, on a obtenu des effets très, très positif.
Un vieillissement du cerveau qui concerne tout le monde, d'ailleurs.
Ah oui, on vieillit tous, hein, notre cerveau aussi, même si on ne le voit pas à l'œil nu. Donc, moi, je vous dis que c'est un dossier à suivre. Et cet été, je vous invite à faire un peu plus de place aux gras végétaux et aux poissons dans votre alimentation. Et puis peut-être que vous n'oublierez pas trop vite ce que vous avez appris dans mes chroniques de nutrition grâce à votre mémoire améliorée.
Merci beaucoup, Louis.
J'ai une petite chose à vous dire à la toute fin.
Oui.
Que je suis tombée sur un livre très, très audacieux.
Donc, tu as une suggestion à nous faire, quoi.
Bon, alors, le livre, il s'intitule « Cantine sauvage ». Rien de moins. Et c'est un guide qui vous permet de vous approvisionner en pleine nature et en toute liberté. Donc, c'est un livre audacieux, vous ai-je dit. Ça parle de chasse, pas de seulement de chasse en campagne ou en forêt, mais aussi de chasse en ville. Ça parle de pêche, ça parle de plantes sauvages, même des plantes sauvages que vous pouvez utiliser comme épices, comme condiments. C'est très, très intéressant. Vous allez apprendre toutes sortes de choses. Vous allez tomber sur des recettes pas comme les autres. Par exemple, du vin de pissenlit. On peut faire fermenter le pissenlit pour en faire du vin. On peut faire son fromage ricotta, son boursin. Et même avec les orties, on peut faire de la délicieuse purée.
Ah bon?
Alors, voilà, donc c'est un livre qui va peut-être réveiller le coureur des bois qui sommeille en vous et qui va vous permettre, j'en suis certaine, de passer un très bel été.
Merci beaucoup, Louise, de la belle collaboration.
Je t'en prie.
C'est la dernière de la saison.
Oui.
Très belle collaboration. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as permis d'emmagasiner dans nos mémoires, dans notre cerveau. Je reprends tes mots. Et le mot condiment, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Hein. Condiment, on l'emploie de moins en moins d'ailleurs.
Ben oui,
on parle beaucoup plus.
Il y en a partout, il y en a peut-être dans la ruelle derrière chez toi. Donc.
Ouais, on parle de recettes, on parle d'épicerie, on parle même pas des condiments. Voilà. C'est ce qui vient quand tu as dit le mot condiment, j'ai dit, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot-là. Là, ma mémoire me dit, non, ça fait longtemps. Mes oreilles m'ont dit, ah, c'est longtemps, je ne l'ai pas entendu ce mot-là, les condiments.
Voilà. Joli en plus.
Voilà, c'est joli en plus. Voilà. Merci beaucoup pour la belle collaboration, c'est très apprécié. Et puis, bon, au plaisir de te retrouver à partir du 6 septembre pour la saison prochaine.
Qui sait ?
Sur Sceaux. Oui, c'est la nature qui nous dit tout, alors qui fait tout à notre place.
Alors, profitez de l'été. Vous
très bel été à toi.
Et toi aussi.
Et puis, au
et
plaisir.
À Maurice.
Oui.
Et à Nicolas.
Oui.
Ok.
Ouais.
Au revoir. Au plaisir de se reparler.
Bonne semaine. À bientôt.
Merci.
Ouais.
Au revoir.
I can see clearly now. The rain's gone. I can see all obstacles in my way. Yeah. Gone is the dark cloud that had me blind. It's gonna be bright. It's gonna be bright. Sunshiny day. I think I can make it now. Things gone. All of my have disappeared, yeah. There is the rainbow I've been praying for. It's gonna be bright. It's gonna be bright. Look straight ahead. Nothing but
Holy Cole, Oui, elle est d'Halifax, une grande musicienne de jazz. Holly Cole qui sera ici au Festival de Jazz cette année à Montréal. Ça va être le 5 juillet, si je ne me trompe pas, au Théâtre Maisonneuve. Oui, 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 grande dame qui fait le tour du monde avec son trio, oui, je sais pas, avec d'autres groupes aussi, à Can't You Clearly Now, ça c'est Holly Cole. Sera ici à Montréal, je dis bien le 5 juillet, voilà, 2022, dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal. Tout est connu mondialement et parcourt le monde entier. Elle est à tous les festivals de jazz dans le monde entier. Là où il y a des festivals de jazz, bien sûr. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est le 20 juin 2022. C'est la journée mondiale des réfugiés. Voilà. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons mettre fin à cette pandémie et nous rétablir. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relancer nos économies. Et alors, ensemble, nous pourrons tous revenir aux choses que nous aimons. C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui le dit. Voilà, c'est pas moi. C'est comme ça. Et puis les personnes déplacées, les réfugiés, c'est les personnes déplacées internes. Et puis les personnes déplacées en dehors de leur pays, ou bien en dehors de leur région, en dehors. Allez, parce que les gens se déplacent aussi à l'intérieur du même pays. C'est pas seulement à l'extérieur de leur pays qu'ils vont bien de leur continent. Oui, c'est compliqué cette histoire de réfugiés. Oui, c'est ça. Chacun. Partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité. Donc tous les 20 ans, le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. C'est l'occasion de saluer la force et le courage de celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur pays d'origine pour échapper. Je ne parle pas des gens qui partent parce qu'ils veulent améliorer leur situation économique. Ça, c'est les immigrants et autres. Je parle des réfugiés, comme actuellement ce que vivent les Ukrainiens en Europe. Voilà, ils sont obligés de partir, ils n'ont pas le choix. Il y a pas mal de régions du monde aussi actuellement qui les gens sont obligés de partir de leur village, de leur département, de leur ville principale, de leur pays complètement sortir. Comment ils s'arrangent pour partir? Voilà, la force et le courage de celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de parti d'opposition, c'est un seul parti politique. Il suffit que tu t'opposes. Alors là, le gouvernement en place est sur ton dos. Il faut partir. Parce que tu veux te comporter comme dans les autres pays où on appelle, où il y a un semblant de démocratie, ou bien de la démocratie, tu ne pourras pas vivre là. Il faut aller manifester ailleurs, pas dans ce pays-là. Voilà. Donc cette journée permet aussi de renforcer l'empathie et la compréhension de leur sort et de reconnaître leur résilience dans la reconstruction de leur vie. Voilà. Journée mondiale des réfugiés 2022, c'est aujourd'hui, 20 juin. Quelles qu'elles soient, les personnes contraintes de fuir doivent être traitées avec dignité. N'importe qui peut demander une protection, peu importe qui il est ou ce en quoi il croit, ce n'est pas négociable. Rechercher la sécurité est un droit humain. D'où qu'elles viennent, les personnes contraintes de fuir doivent être accueillies. Les réfugiés viennent du monde entier pour se mettre à l'abri, ils peuvent comprendre. Prendre un avion, un bateau ou voyager à pied. Oui, beaucoup le font à pied d'ailleurs. C'est pas tout le monde d'ailleurs qui a les moyens de se prendre un billet d'avion ou bien de se payer un ticket de bateau. Ce qui reste universel, c'est le droit de rechercher la sécurité. Chacun de nous a besoin de ça. Et chaque fois que des personnes sont contraintes de fuir, elles ont le droit d'être protégées. Quelle que soit la menace, guerre, violence, persécution, tout le monde mérite une protection. Tout le monde a le droit d'être en sécurité. Un même objectif, des contextes différents, bien sûr. Et chaque minute, sur cette terre, il y a 20 personnes qui doivent tout abandonner pour échapper à la guerre. Chaque minute, ça dit 60 secondes, 20 personnes. À la persécution ou à la terreur. Bien que l'objectif soit le même, se mettre en sécurité, il existe plusieurs types de personnes déplacées dans le monde. Les réfugiés, selon l'Organisation internationale pour les nations, pour les migrations, OIM, le terme réfugié fait référence à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses origines politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité, se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne peut y retourner. C'est ça le réfugié. Voilà, il y a des gens qui se font refuser. On dit on va aller retourner dans leur pays d'origine. Mais tout le monde sait que si on retourne cette personne ou bien ces personnes dans leur pays d'origine, c'est pas le tapis rouge qui les attend. Voilà, ça c'est clair. Et alors, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile ont besoin d'aide et de conseils essentiels pour la procédure d'octroi du statut de réfugié. Il incombe aux systèmes nationaux d'asile de décider quels demandeurs d'asile peuvent effectivement prétendre à une protection internationale. Ceux dont on estime qu'ils ne sont pas des réfugiés ou qu'ils n'ont pas besoin d'une forme de protection internationale à l'issue de procédures adéquates peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine. Voilà, c'est tout un... Il y a les apatrides, des millions d'apatrides sont pris au piège dans un vide juridique, c'est-à-dire avec des droits fondamentaux limités. L'apatridie a également un impact terrible sur la vie des personnes. La possession de la nationalité est essentielle pour participer pleinement à la société et c'est une condition préalable à la jouissance de l'ensemble des droits humains. Et puis les rapatriés, c'est les personnes... De retour chez elle, c'est la meilleure des solutions durables pour de nombreuses personnes déracinées. Voilà la convention du 951. Ouais, c'est ça. Pour en savoir plus, allez-y sur le site des Nations Unies de l'ONU. C'est aujourd'hui, c'est une manière modeste ici à Canal M de faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui se déplacent chaque minute, comme réfugiés. Et alors, de quoi? De la compassion, de l'empathie, un peu de tout.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici hier à Montréal? Il s'est passé quelque chose. Voilà, le Grand Prix de Montréal. Ouais, F1. L'Hollandais, ou dans le Néerlandais si vous voulez, il y a des gens, les Belges sont en train d'essayer de le récupérer, sa maman est belge. Voilà, c'est... Je suis parti, là je vais revenir sur ça après avec mon invité parce qu'il faut que j'en parle aussi. Vainqueur, Verstappen, restez à l'écoute. Après la petite pause publicité, je reçois mon invité bien sûr qui va nous parler de la 10e session. Mon invité qui est Raymond Villeneuve, directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. Pour nous parler du sondage dans le cadre de la 10e semaine québécoise de la paternité. Allez, restez à l'écoute, à tout de suite.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie d'Escale 17-18. Toujours la même équipe. Mon invité déjà au bout du fil, Raymond Villeneuve, qui est directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. RVQ, c'est dans le cadre de la diffusion du sondage, la diffusion du sondage pour la dixième semaine québécoise de la paternité SQP. Voilà. Cette fondation, ce regroupement qui a été fondé d'ailleurs en 1997, ça fait un bail, comme on dit, hein. ça fait une belle lurette, mais ça fait un moment. Alors c'est le directeur général qui va nous parler de ce sondage qui est sorti, et dans le cadre de cette 10e semaine québécoise qui a eu lieu du 13 au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à hier, à la fête des pères. Alors moi je suis bien curieux de découvrir, je ne savais pas qu'il y avait moi, je ne pensais pas qu'il y avait tellement d'organismes, un très grand nombre d'organismes qui étaient dédiés aux hommes, aux pères en difficulté, qui avaient des problèmes. Quand j'ai vu le nombre, je me suis dit, mais waouh, ça regroupe plus de 250 organismes individus issus des 17 régions du Québec. Bonjour Raymond Villeneuve.
Bonjour.
Merci d'avoir le temps de venir nous éclaircir un peu avec les statistiques, le sondage, tout ça. Alors, Comment s'est passé du 13 au 19? Comment s'est passé la 10e semaine?
Ah, écoutez, très, très bien. Donc, comme vous l'avez mentionné, on a fait un grand sondage sur la vulnérabilité des pères au Québec.
Oui.
Et on a eu une réponse des médias absolument sensationnelle. On a donné, je pense, plus de 35 entrevues.
Oui.
On a une grande couverture de presse et c'est intéressant de voir que les médias et la société québécoise s'intéressent de plus en plus aux difficultés que les hommes et que les pères peuvent vivre.
Oui, oui. Ouais. Alors moi, quand je vois les statistiques, les chiffres, là, je suis resté. Ça m'a tristé un peu parce que j'ai l'impression que on en parle très peu. Est-ce que je me trompe?
Tout à fait, effectivement. On sort de 2 ans de pandémie. Hein, on sait que c'était difficile pour les familles, pour les mères, pour les enfants. Mais effectivement, on a très peu parlé de la situation des hommes et des pères. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important de mettre ça de l'avant,
oui.
De faire un coup de sonde pour aller voir comment les pères vont après 2 ans de pandémie.
Mm-hmm.
Et on a pu constater qu'effectivement, la majorité va bien, mais il y a comme quand même une partie importante là, qui éprouve des grandes difficultés.
Oui, oui. C'est selon les résultats, un père sur 7, 13%, et un des enfants de 0 à 18 ans est en situation de détresse psychologique élevée. Wow.
Donc ça, c'est vraiment très, très sérieux. Et puis c'est un indice reconnu scientifiquement.
Oui.
Ça, ce que ça veut dire de la façon la plus simple, c'est qu'il y a un père sur 7 qui a des émotions négatives persistantes.
Oui.
Donc, ça veut dire que jour après jour, c'est difficile. Ça veut dire que la vie est lourde, la vie est pesante, il y a des signes de dépression, d'anxiété.
Oui.
Et chaque petit geste est d'une grande, grande, grande difficulté.
Mm-hmm.
Donc, c'est très, très préoccupant.
Oui. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches, je suis allé sur votre site aussi pour voir un peu les différents organismes qui font partie du regroupement. Ouais. Et je me suis dit, j'espère qu'ils ne sont pas tous regroupés à Montréal. Non, c'est à travers tout le Québec.
Oui, tout à fait.
Ah ouais.
C'est sûr que c'est un réseau qui est en développement.
Mm-hmm.
Parmi nos 250 membres, ce n'est pas tous les organismes qui se consacrent à 100% aux pères.
Oui.
Mais ce qui est intéressant au Québec, c'est qu'on a une innovation sociale qui est unique au monde.
Oui.
Ça s'appelle des maisons oxygènes. C'est des maisons d'hébergement père-enfant.
Oui.
Qui sont là pour quand les pères vivent des grandes difficultés suite à une séparation. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie. Disons, la mère décède, il y a une séparation difficile, il y a une garde partagée. Il y a toutes sortes de contextes qui font qu'un père peut avoir besoin d'hébergement avec ses enfants.
Oui.
Et à l'heure actuelle, donc, il y a 22 maisons oxygènes dans différentes régions du Québec qui peuvent accueillir...
22?
22, donc c'est un réseau qui est en développement.
Wow.
Qui n'ont pas tous un financement à la hauteur des besoins des pères. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se développer et il faut vraiment le saluer.
Oui. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les politiques, les élus municipaux pour venir en aide à ces organismes?
Ben écoutez, c'est que les gens, de plus en plus, ils voient que ben, les pères au Québec s'impliquent de plus en plus, sont de plus en plus présents. Leur rôle est de plus en plus important pour le bien-être des enfants.
Oui.
Au Québec, on souhaite une société davantage égalitaire, donc on souhaite aussi que les charges familiales soient davantage réparties entre les pères et les mères.
Mmh.
Alors on se dit, ben écoutez, si on veut vraiment soutenir la famille, ben faut soutenir tous ses membres. Et là, de plus en plus, les politiciens, les décideurs sont sensibles à ces réalités-là.
Oui.
Il y a vraiment eu, dans les dernières années, des avancées importantes. C'est sûr qu'il y a encore énormément de travail à faire. Il y a encore énormément de besoins non comblés, mais il y a de l'espoir. Et quand on arrive avec des dossiers bien montés, des démonstrations éloquentes, comme le sondage qu'on a fait cette semaine,
oui.
Donc on peut montrer qu'il y a aussi des difficultés vécues par les pères, puis il faut aussi les aider pour leur propre bien-être, mais aussi pour celui de leurs enfants et de leurs conjointes et conjoints.
Oui, et puis j'aime bien le thème de la thématique de cette année. Papa, as-tu besoin d'aide? Tous les parents peuvent avoir besoin de soutien. J'aime ça. Oui.
L'idée, c'est de prendre des mots tout simples. On voulait que ce soit des mots qui parlent à tout le monde.
Oui.
Des phrases qu'un père peut dire à un autre père, « Papa, as-tu besoin d'aide? » Une phrase qu'une conjointe peut dire à son conjoint, que même qu'un enfant pourrait dire à son père.
Oui.
Une phrase que les organismes de soutien et même que la société québécoise tout entière peut dire au père, « Papa, avez-vous besoin d'aide?
Oui.
Avez-vous besoin d'un coup de main? »
Mm-hmm.
Et on le sait qu'encore aujourd'hui, en 2022, pour beaucoup d'hommes, demander de l'aide, c'est pas facile. Les hommes aiment beaucoup régler leurs problèmes par eux-mêmes. Ils disent, « Moi, je suis capable, moi, je suis fort et tout ça. » Cependant, tout le monde peut avoir des limites. Et tout le monde peut arriver à m'emmener à une situation où on est vraiment au bout de ce qu'on peut faire.
Oui.
Et juste de dire, j'ai besoin d'un coup de main, là, je suis plus capable.
Est-ce que vous ne pensez pas que ça vient de l'éducation des parents? Alain, un homme ne pleure pas, il faut rester fort, il ne faut pas montrer ses émotions.
C'est encore présent dans notre société.
Oui.
Ça évolue, hein, on le voit vraiment quand même dans les générations les plus jeunes. il y a une plus grande ouverture à parler de ses émotions.
Oui.
Cependant, ce que les études constatent, c'est que quand même les plus jeunes, quand ils se retrouvent dans une situation de crise,
oui.
eux aussi ont tendance à se refermer, à s'isoler. Et comme souvent les hommes ont des réseaux sociaux de soutien moins importants, ça fait que quand il arrive une crise, souvent ça frappe très dur.
Oui.
Et comme on en parle peu, comme ces souffrances-là sont souvent dans l'angle mort,
oui.
ben les réseaux d'aide sont pas toujours au rendez-vous, malheureusement.
Oui. Quelle est votre mission principale?
Ben nous, on est un regroupement. Donc, nous, on n'offre pas des services directement aux pères.
Oui.
Donc, on regroupe un paquet d'organisations qui ont à cœur de soutenir les pères.
Oui.
Et ce qu'on fait, c'est qu'on agit auprès des décideurs pour leur dire, hey, il y a des pères. Donc, quand vous concevez des programmes, des stratégies, des politiques publiques, il faut aussi penser aux pères. On travaille aussi auprès des organisations qui soutiennent les familles pour les aider à développer des meilleures stratégies d'intervention auprès des pères.
Oui.
Et aussi, on fait des recherches, des études puis des campagnes dans l'espace public
mm-hmm.
pour justement valoriser l'engagement des pères.
Oui.
Tout ça toujours dans une perspective d'égalité entre les mères et les pères.
Oui, oui. Et on dit que le 2/3 ou 66% de ces pères vulnérables n'ont bénéficié d'aucune aide psychosociale dans la dernière année.
C'est dur, hein, ça. Donc,
c'est
ça veut
dur,
dire que
oui.
les pères qui sont en situation de détresse psychologique élevée, il y en a les 2/3 qui n'ont pas consulté. Souvent, parce que la majorité des cas, parce qu'ils n'ont pas demandé d'aide.
Oui. Ou bien ils ne savent pas à qui s'adresser.
Ça, c'est important aussi dans la statistique. On a presque 1/3 des pères que s'il y avait un coup dur, ils ne sauraient pas à qui s'adresser.
Oui.
Et il y a encore souvent l'idée, la conception que les services communautaires, que l'aide psychosociale, c'est davantage pour les femmes. Je pense que ça, on a un travail de société à déconstruire cette chose-là.
Oui.
Puis de dire que tout le monde peut vivre des difficultés. Tout le monde peut arriver à un point où on a besoin d'un coup de main.
Oui.
Et le coup de main, il peut venir, oui, d'un psychologue, oui, d'un intervenant, mais il peut venir aussi des gens proches autour de nous. Là.
Oui.
Il y a plein de gens souvent qui peuvent nous aider. Mais encore faut-il qu'on leur exprime notre besoin.
Oui, 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 oui. Quand je vois les statistiques, là, j'ai dit, mais waouh, on est mal barré. Bon, c'est ma manière. Mmh. Moi, je ne suis pas si pessimiste que ça, mais quand je vois le nombre d'organismes qui collaborent avec vous, je me suis dit, il y a au moins de l'espoir.
C'est ça. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Puis
oui.
souvent, c'est des organismes qui sont petits.
Oui.
Le financement n'est pas toujours adéquat. C'est en développement. Mais effectivement, s'il y a vraiment eu, au cours des dernières années, des avancées importantes.
Oui.
On a maintenant, par le ministère de la Santé et des Services sociaux, on a un plan d'action en santé et bien-être des hommes.
Oui.
Donc ça, c'est nommé, c'est formalisé.
Ça n'existait pas avant, là.
Avant 2017, il n'y avait pas de plan d'action
oui.
pour soutenir les hommes en difficulté au Québec. Donc ça, c'est une avancée quand même importante.
Mmh.
Dans la stratégie pour l'égalité entre les hommes et les femmes, il y a des mesures pour soutenir la coparentalité, l'engagement paternel.
Oui.
Le ministère de la Famille a mis en place plusieurs programmes à cet effet-là.
Oui.
Donc, de plus en plus, cette réflexion-là est présente. Et moi, ce que je dis toujours aux politiciens, aux décideurs et même aux organisations, c'est qu'il faut développer le réflexe paternité. C'est-à-dire que quand on pense famille, oui, il faut toujours penser mère-enfant, mais il faut aussi penser au père.
Oui.
Il faut aussi se poser la question, est-ce que notre organisation, est-ce qu'elle rejoint les pères? Est-ce que nos services sont bien adaptés pour rejoindre les pères?
Oui.
Et ça, ce réflexe-là, ça commence, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
Il y a beaucoup de travail à faire, surtout avec la réconfiguration des relations, même sentimentales, ou bien les relations amoureuses entre hommes et femmes, entre hommes-hommes, entre femmes-femmes.
Tout à fait.
Ça complique toute la situation.
Donc, et il faut nommer ces enjeux-là
oui.
et il faut dire comment est-ce qu'on fait. Et si on a la difficulté à rejoindre les pères, il faut
oui.
se poser la question.
Oui.
Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce que notre stratégie est adéquate? Est-ce que notre programme est adéquat?
Oui.
Parce que ça, il y a plein d'études qui disent que les hommes et les femmes n'expriment pas nécessairement leur détresse de la même façon.
C'est ça.
Dans une période de crise, donc à ce moment-là, si on n'est pas formé, si on n'est pas attentif à cette expression-là différente, des fois, on peut mal comprendre ce
oui.
que les hommes expriment.
C'est ça. Et c'est 22% des pères à faible revenu, 25% des pères ayant vécu une séparation récente et 19% des pères célibataires qui ont besoin d'aide. C'est-à-dire toutes les couches de la société sont touchées, quoi.
Oui, tout à fait. Puis ce qu'on voit, puis ça fait plusieurs études qu'on le voit, c'est tout le phénomène, ce qu'on appelle du cumul des vulnérabilités.
Wow.
Hein, imaginez, c'est comme si vous avez un grand sac derrière votre dos et vous tentez de marcher.
Oui.
Et quand vous avez une pierre dans votre sac, ça va encore. Quand vous en avez deux, c'est plus lourd.
Oui.
Mais quand vous avez trois pierres, quatre pierres, cinq pierres, donc quand vous êtes pauvre, quand vous parlez pas la langue, quand vous êtes immigrant, quand vous êtes seul, quand vous avez une dépression, toutes ces pierres-là s'accumulent et à un moment donné, il arrive un point où ça devient comme trop lourd et les gens tombent. Mais souvent, comme on disait tantôt, c'est que les hommes, ils veulent pas nécessairement aller chercher de l'aide, fait qu'ils vont se relever, ils vont essayer, et ils vont des fois s'épuiser, même si leur sac est trop lourd, puis ils ont de la difficulté à le reconnaître.
Oui. Wow, ouais. Ça c'est non, vraiment, c'est, je me suis dit, ce sujet-là, il faut qu'on en parle vraiment. Merci à vous, à toute l'équipe, à tous les organismes qui sont liés au regroupement RVQ. Là, vraiment, tout ce que vous faites, là, vraiment, je me suis dit, oh, quelle belle initiative pour tous les hommes en détresse au Québec. Parce que, bon, ben, il y a quelques années, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, bon, ben, ils ne savaient même pas où s'adresser. Maintenant, au moins, on arrive à mettre le doigt sur certains points. Et il y a tout quelques organismes qui se mettent en place pour leur venir en aide.
Tout à fait. Puis, je pense que le message de la fin, c'est vraiment de dire aux pères, n'hésitez pas. Si vous sentez que ça ne va pas bien, demandez de l'aide.
Oui.
Faut l'en demander à vos proches, à d'autres organisations et tout ça. Il ne faut pas rester seul avec ça.
Oui.
Personne n'est invulnérable. Tout le monde peut avoir des difficultés qui les dépassent. Donc, c'est un signe de force de demander de l'aide, mais pas un signe de faiblesse.
Oui. Les pères anglophones, 19%, les pères allophones, 17%. Et ceux ayant vécu de la violence dans l'enfance, 17%. Et tout le monde est concerné, quoi.
Tout à fait. Écoutez, puis il y a des chiffres terribles. L'ensemble des pères nous ont dit que pour 20% d'entre eux, ils avaient vécu de la violence physique sévère dans l'enfance et 9% des agressions sexuelles.
Oui.
Des chiffres très, très sérieux.
Wow. Alors, quel est le conseil que vous avez à donner aux pères, même aux mères aussi, qui ont des maris qui parlent peu, qui souffrent très peu? Ou bien aux enfants qui nous écoutent aussi, aux adultes, aux ados qui nous écoutent, papa parle pas beaucoup, mais il se pourrait qu'il traverse une période difficile, mais il n'a pas envie de s'ouvrir parce que c'est un homme, il doit rester taf, comme on dit.
Ouais. Ben écoutez, c'est sûr que la première responsabilité dans ces cas-là, c'est à l'homme, c'est au père.
Oui.
Donc, il faut pas, par exemple, que les enfants se charge de la responsabilité des difficultés de leurs parents.
Oui.
Il faut jamais aller vers là parce que c'est les enfants, ça peut être trop lourd pour eux.
OK.
Ce qu'on peut faire, c'est tendre une perche, dire « Papa a besoin d'aide », dire « Si tu as besoin d'aide, je suis là ».
Oui.
Mais après ça, c'est sûr que le premier responsable demande...
C'est le père lui-même.
C'est ça. Donc, il faut pas lui enlever son pouvoir d'agir. C'est lui qui peut faire de quoi, mais c'est important que les gens autour de lui soit là pour le moment où il va s'ouvrir, mais il faut quand même que le père se dise « Je suis le premier responsable, c'est à moi à agir, c'est à moi à aller vers l'autre. » Mais c'est sûr que quand les autres lui disent « Nous sommes là », c'est sûr que c'est aidant.
Et Raymond, qu'est-ce que c'est qu'une relation coparentale négative?
Ben là, c'est ce qu'on voit, c'est que ce qui est un facteur important, c'est que quand la relation avec le conjoint, la conjointe est difficile, puis selon le sondage, on a comme 15% des cas, les pères nous disent que la relation est négative et difficile. Donc ça veut dire des conflits, ça veut dire un manque de communication, ça veut dire tout ce qui vient avec ça. Ben c'est clair que ça l'accentue, la détresse des pères. Donc ça, c'est un facteur aussi qui est très, très important. Quand on traverse une période difficile, mais si notre relation avec notre conjointe est bonne, ça l'aide. Si elle est moins bonne, ben, c'est sûr que ça rend les choses plus compliquées.
Wow. Alors, un dernier mot pour la dernière minute qui nous reste. Je vous dis d'abord merci, bravo à vous et à toute l'équipe, à tous les organismes qui sont reliés. Vous servez de pont.
On essaie, mais c'est sûr que là, de façon plus directe, hein, c'est ça, on a les maisons d'hygiène. Vous pouvez se taper sur l'Internet réseau maisons d'hygiène.
Oui.
Vous allez trouver leur site et sur leur site, il y a la liste des 22 maisons d'hygiène avec des adresses courriels, des numéros de téléphone. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez appeler là pour leur dire « Je traverse une période difficile ». Et même si vous n'avez pas besoin d'hébergement, si vous avez juste besoin de soutien, de conseils, il y a des oreilles attentives qui connaissent les hommes, qui connaissent les pères, des gens qui sont prêts à vous écouter. Alors, n'hésitez pas à leur passer un coup de fil pour votre bien puis le bien des personnes que vous aimez.
Ouais. Merci beaucoup, Raymond Villeneuve, directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité RVQ. dans le cadre de la 10e semaine québécoise de la paternité. C'est terminé hier. Merci beaucoup à vous. Du courage, bravo. Et puis au plaisir de vous réentendre pour avec d'autres statistiques beaucoup plus positives.
Tout à fait, tout à fait. Bon, ben, bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Merci.
Au revoir.
Près d'un fleuve, je suis né. Depuis, je flotte avec le flux. Dans cette vie qui veut de moi, peu importe ce que je suis. Et donc, j'existe et je respire. Et je me dis que ce n'est pas un mauvais départ. Puis j'étais un temps dans le coma. Mais voilà, je me réveille. Et je vous apporte des fleurs, des chocolats. Depuis le trou du cul de l'enfer, je réapprends à marcher. Je donne des noms aux choses. J'ai dit mon amour, mes mensonges, mon espoir, mes fautes, ma passion, mon feu, ma colère, mon impatience, mon non et mon peut-être et mon oui inconditionnel. Oh oui, je veux. Je vais être à nouveau surpris, je vais être étonné comme le premier des hommes. Je veux me retrouver debout avec tes yeux nouveaux au milieu des choses. Et ne plus rien reconnaître, pas à pas à travers les bois et les prairies et dire oui, c'est bon, plutôt pas mal. Pas mal tout ça. Aussi loin que je peux, car chaque chose c'est un cadeau. C'est juste l'emballage qui fait chier. Et on a beau à essayer, on arrive à peine à enlever ce joli papier. Autant je sais maintenant qu'il y a des gens dans ce monde qui le justifient, qui peuvent nous aider à vivre, qui aiment, aiment comme si c'était la chose la plus légère au monde. Je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Oh oui, je veux. Oui, je veux. Je reste éveillé la nuit. Je rêve des plus belles mélodies qui flottent dans l'obscurité. Je flotte avec elles. Quelque chose en moi veut briller et aller vers le ciel. Puis une batterie commence à battre, pousse le beat derrière ma tête. Une basse colle à la grosse caisse, une guitare va de l'avant. Et quelque part dans le néon siffle un arsène.
Stéphane Eicher, le plus léger au monde. Je dis merci au directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité, Raymond Villeneuve, qui est venu nous éclaircir un peu sur beaucoup de choses dont on ne sait pas, et les organismes qui sont chargés. Bon, parce que le regroupement pour la valorisation de la paternité sert de pont entre les organismes, les différents organismes, une manière de... une manière de bien coordonner tout ce qui se passe dans ce milieu avec les différents organismes. Et comme il a dit, il y a l'organisme Oxygène qui a 22 maisons d'oxygène au Québec. C'est beaucoup quand même. Il y a d'autres organismes aussi qui sont présents. Alors si parmi les hommes, les pères qui nous écoutent, si se trouvent dans des situations comme ça, n'hésitez pas à les contacter. Un réseau, ils ont allez-y sur le site Réseau Oxygène, l'organisme. Ouais, et puis bon, ben vous allez ou bien vous adressez directement à l'organisme, au regroupement général, au regroupement pour la valorisation de la paternité. C'est rvpaternité.org. Vous allez voir toute la liste des organismes là-bas. Il y en a, c'est dans différentes régions du Québec pour essayer de demander de l'aide. Ne restez pas chez vous, dans votre petit coin, boulot, métro, dodo, enfermé, en train de laisser ce qui va pas là, en train de vous ronger le reste de vos jours jusqu'à ce que vous arrivez. Ça vous pousse à penser au suicide. Non, il faut pas attendre à ce que vous ayez ces idées négative là. Non, 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 non. Il y a des ressources. Il y a quelques dizaines d'années, vingtaines d'années, il n'y avait pratiquement pas de ressources pour les pères. Maintenant, il y en a. Profitez-en. Adressez-vous à ces organismes pour demander de l'aide. C'est très, 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 très important. Il ne faut pas se laisser dans son petit coin. Il faut s'ouvrir. Il faut parler à d'autres personnes. Et les pères, dans ces genres de détresse, de situations, se retrouvent aussi au sein de ces organismes pour échanger. Quels sont les problèmes qu'ils vivent? Quelles sont les différentes solutions qui sont mises à leur disposition? Allez, profitez-en. Alors, comme je disais, avant la fin de la première et partie de l'émission, je vais parler rapidement du Grand Prix de Montréal hier. C'est le Néerlandais Max Verstappen qui gagne pour la première fois à Montréal. Il distancie vraiment ses concurrents. C'est Red Bull, hein, son équipe, et puis bon, Carlos Sainz qui est l'Espagnol qui court pour les Italiens, Ferrari qui a terminé deuxième. Il a tout tenté, il voulait j'ai pris le temps d'ailleurs parce qu'il était tellement beau de me retrouver sur une terrasse hier pour voir cette course. Et la semaine prochaine, ça va être où? En fin de semaine prochaine, ou bien c'est pas dans deux semaines, je vous en parlerai. Ça va être à Londres en Angleterre. Alors Lewis Hamilton, son deuxième podium de l'année. Ah oui, je ne sais pas ce qui arrive cette année à Mercedes d'ailleurs, qui n'arrive pas vraiment à calibrer les véhicules de ces deux coureurs. Ouais, George Russell, le jeune anglais, et puis Hamilton qui est de la trentaine maintenant. Alors voilà le classement d'hier qui était premier, Max Verstappen. Deuxième, Carlos Sainz. Troisième, Lewis Hamilton. Quatrième, les deux Mercedes se suivent, George Russell. Et puis cinquième, Charles Leclerc, qui était toujours le gagnant. Charles est de Ferrari aussi. Et puis il y a Esteban Ocon, il y a Valtteri Bottas, et lui il est encore là, Zhou Guanyu, Fernando Alonso d'ailleurs au classement. Samedi, il a eu la deuxième place, je ne sais pas comment il s'est retrouvé à la neuvième place. Merci à toi, Maurice. On est à la fin de l'émission déjà? Non, ça. Ok, j'ai encore du temps, merci. Et puis, il y a Lance Stroll, national. Il est. Lui, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se retrouver parmi les cinq premiers, quoi. Ou bien aller même sur le podium. Dixième position. Il y a Daniel Ricciardo, voilà, qui est 11e, 12e, Sébastien Vettel. Bon, il y a eu beaucoup d'abandons, hein. Le fils de Michael Schumacher, là, Michael, ouais. Lui, il est tout le temps en train d'abandonner. C'est là, tout le temps des abandons. C'est pas parce que son père était bon qu'il devait être forcément bon. Alors, on se retrouve la semaine prochaine parce que j'ai l'impression que c'est presque toutes les fins de semaine, là. C'est ça de Grand Prix. Deux semaines.
Non, c'est deux ou trois semaines, je crois.
Deux. Non, ouais. Pas trois semaines, deux.
Ben, au moins deux,
ouais. Voilà, deux, trois, ça va
être. Le temps de déménager, voiture, tout.
Voilà. Donc, dans deux, pas cette fin de semaine qui arrive, mais l'autre, ils vont se retrouver à Londres. Voilà. Chez les deux Anglais de Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell. Voilà, c'est pour ceux qui aiment le bruit de ces bolides, le vroom vroom. Je sais qu'il y a eu des manifestations à Montréal, bien sûr. Et c'est pas tout le monde qui veut avoir ces bruits tout le temps pour la fin de semaine, mais c'est comme ça partout dans le monde où ils passent. Si tous les pays ne veulent plus ça, bon, ça va finir. Mais ils peuvent essayer de trouver un peu des carburants. Autrement, d'autres genres de carburants bio, mais qui vont faire du bruit quand même, mais moins toxiques, quoi. Là, je supporte. Voilà.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, je vais parler de quelque chose rapidement qui va vous faire sourire un peu. Il y a eu du bon football. Le samedi, ça a été organisé, le Beautiful Game, le beau jeu. Un match d'exhibition entre l'équipe de Ronaldinho, le Brésilien, et Roberto Carlos, deux anciens internationaux brésiliens qui, déjà le mois d'avril, se sont mis ensemble pour dire on va former deux équipes. Ronaldinho, tu formes ton équipe. Roberto, tu formes ton équipe. Et on fait un gala d'exhibition. Ça s'est passé à Miami. C'était beau. 22 buts au total. Et c'est l'équipe de Carlos qui a gagné 12 buts. Les autres ont gagné seulement 10 buts. Merci beaucoup à toi, Maurice. On se retrouve le vendredi. Et merci à Louise Thibault. Et merci à notre invité, Raymond Villeneuve, qui est le directeur général de ce regroupement pour les hommes. Merci à vous, chers auditeurs. Bon début de semaine à tout le monde. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M, dans le même studio. Sur ce, je vous dis ciao et prenez soin de vos minutes.